Louez et remerciez soit le Seigneur. Nous avons déjà entendu des paroles tout à fait merveilleuses. Nous les avons reçues et nous les croyons de tout notre cœur. Nous sommes touchés, émus chaque fois que Dieu nous parle. Et il parle par sa parole et par son esprit. Je suis encore touché par le dimanche matin. Oh, quelle grâce! Nous avions bien lu la parole de Genèse 32. Et lorsque la révélation a été donnée par l'Esprit, il a été fait référence à la parole et à ce qui s'y est passé. Quelle preuve de la présence de Dieu et de la direction directe, la conduite directe du Saint-Esprit. Nous pouvons passer outre et ne même pas y prêter attention. Mais ce ne serait pas juste devant Dieu. Nous devrions y prêter attention, car c'est ce qui compte. Pas seulement que nous venions ici pour lire une parole, mais que l'Esprit nous conduise, nous guide sur ce que nous devons lire. Et lorsque cela est confirmé, comme c'était le cas dimanche matin, c'est plus que si un aveugle voyait ou qu'un infirme était guéri, parce que nous savons alors exactement que c'est Dieu qui nous a conduits et guidés. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens à ce sujet. En tout cas, une profonde reconnaissance dans mon cœur. Dieu est fidèle. Sa fidélité va au-delà de notre compréhension. Nous n'avons pas de parole pour l'exprimer. Nous avons entendu tant de paroles de Dieu que je n'ai même plus besoin de chercher un nouveau verset biblique, et c'est toujours ce qui est beau. Que l'on puisse simplement se joindre à ce qui a été déjà lu. Et ceux qui ont été attentifs ont remarqué que dans les passages qui ont été lus, le contenu est un peu différent d'un passage à l'autre en comparaison avec un autre verset. Mais partout, la volonté de Dieu est manifestée. Partout, l'Esprit parle par la parole et révèle des choses à venir. Ce que j'ai remarqué dans la dernière parole, c'est en fait quelque chose de très puissant. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu que lorsque les sacrifices étaient offerts, les gens se souvenaient de ce qu'ils avaient fait et ils avaient conscience de leur culpabilité. Cette parole se trouve ici. Et il est ainsi prouvé qu'ils n'étaient pas libérés de leur conscience, mais qu'ils étaient seulement rappelés à leur faute et qu'ils en ressentaient une grande peine. Dans le Nouveau Testament, il en va tout autrement. Ça ne doit pas seulement être différent, mais c'est différent. Il est écrit ici dans Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici je viens, Hébreux 10, verset 9, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde comme étant valable. Donc ce n'est plus la première chose qui est valable, mais la seconde. Plus la condamnation, mais la libération, non pas le jugement, mais la grâce pour tous ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et le fait que nous ayons été graciés, le fait que nous ayons reçu grâce, nous n'y pouvons effectivement rien. C'est une grâce, un don de Dieu avec lequel nous avons été familiarisés. Et puis vient cette phrase, Le verset 10, Hébreux 10, et en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Aussi certainement que Jésus-Christ est mort sur la croix à Golgotha, nous sommes rachetés, sauvés, sanctifiés et béatifiés. Nous ne serons pas sauvés seulement dans l'éternité. Nous sommes déjà ici béatifiés parce que nous croyons en ce qui s'est passé pour nous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en son sacrifice à notre place, en le sang saint qui a été versé pour toi et pour moi. Et c'est par l'offrande de son corps et l'effusion de son sang qu'il a fait tout cela. Les passages de l'Écriture qui ont été lus concernant le retour du Seigneur et le jugement sont bien sûr d'une importance toute particulière d'un point de vue doctrinal. Si vous lisez Matthieu 24, au verset 27, et que vous considérez la venue du Seigneur en lisant ce verset, et que vous considérez la venue du Seigneur, et que ensuite, puis vous lisez Matthieu 25, verset 31, vous constaterez qu'il est question ici de deux sortes de venues différentes. L'une de ces venues est comme un éclair, Matthieu 24, 27, qui emporte l'Église épouse, enlève l'Église épouse. Et laissez-moi le lire tranquillement pour que nous soyons aussi parfaitement en clair, au clair sur ce point. Matthieu 24, verset 27. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même au retour du Fils, au retour du Fils de l'homme. C'est une chose. Ainsi, le retour du Seigneur sera comme l'éclair qui part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. Donc, comme l'éclair qui part de l'Est et brille jusqu'à l'Ouest, ainsi il en sera. Tout est fini. C'est très rapide. On l'a vu, il était et il n'est plus. Tout est passé en un instant, en un clin d'œil. Tout est fait. Passé, c'était... Mais ici, regardez. Mais ce que nous lisons ici au Matthieu, dans Matthieu 25 ne passe pas si vite. Non. Quand il viendra, c'est-à-dire quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui... Ça n'aura pas lieu en un clin d'œil. Alors, il s'assiera là sur le trône de sa gloire. Il ne s'agit pas ici de la venue de venir comme un éclair et de ne plus être là. Mais il viendra, s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il les séparera comme un berger sépare les brebis des boucs. Ça, c'est Matthieu 25, 31. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux que de voir ces deux choses ainsi séparées qui ne se suivent que très peu de temps. L'intervalle n'est pas trop long, mais l'une est le retour du Seigneur pour l'enlèvement. Et ce sera comme un éclair. En un clin d'œil, Paul écrit aussi à ce sujet, notre transformation, notre changement, notre enlèvement sera en un clin d'œil. Nous l'avons entendu à maintes reprises. Ce qui va se passer maintenant, c'est le retour du Seigneur, le changement de ceux qui sont encore restés vivants et la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ. Et nous serons enlevés à sa rencontre dans les nuées. Lorsqu'il viendra pour l'enlèvement, il ne viendra pas jusqu'à cette terre. Il n'aura pas encore le trône pour l'établir ou pour commencer son règne. Ensuite, vient la tribulation, la grande tribulation. Et c'est après cette grande tribulation qu'il viendra pour commencer le règne de 1000 ans. Il s'assiera alors sur le trône de sa gloire. Maintenant, il est assis sur le trône du Père. Et vous le savez, nous devons le lire une fois très clairement afin qu'il n'y ait pas de confusion. Apocalypse, chapitre 3, nous lisons ici le dernier verset. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. À celui qui vaincra, je donnerai d'être assis avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici dans Apocalypse, il nous est dit que notre Sauveur s'est assis sur le trône de son Père et que le trône du Père est dans le ciel. Quand Étienne a vu les cieux ouverts et la gloire de Dieu, il a vu Jésus comme le Fils de l'homme à la droite de la gloire de Dieu. Mais quand le Seigneur reviendra, il s'assiera sur le trône de David. C'est son trône pour régner. Ça, c'est son trône pour régner et pour gouverner. Il serait peut-être important de prendre un certain nombre de passages bibliques justement sur ce sujet. Mais notez qu'il est dit ici, s'il vous plaît, à celui qui vaincra, je donnerai d'être assis avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Lorsque notre Seigneur a vaincu, il est entré dans la gloire pour être sur le trône, pour recevoir les prières des saints et pour intercéder et plaider en notre faveur. Ici, dans Matthieu 25, je pense qu'il faut tenir compte de quelque chose, à savoir de la tribulation qui se situera alors entre les deux. Mais il est dit ici que lorsque le Seigneur ou le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, c'est Matthieu 25, verset 31. Verset 32. Maintenant, toutes les nations seront alors rassemblées devant lui et il les séparera les unes des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25, 31 et 32. Il n'est pas question ici d'une résurrection. Pas un seul mot sur la résurrection. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas non plus écrit qu'il jugera les individus, mais que les nations seront alors rassemblées devant lui. Et pour cela, nous devons nous rendre au chapitre 2 d'Ésaïe afin de faire correspondre cela exactement à la parole prophétique. Ésaïe, chapitre 2, du verset 2. Au temps de la fin, cela arrivera que la montagne du temple de l'Éternel sera solidement établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des hauteurs. Alors toutes les nations afflueront vers elle. De nombreuses nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira l'instruction et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Remarquez ce qui est écrit au verset 4 maintenant. Alors il jugera entre les nations. Il fera justice à de nombreux peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des charrues. Et de la pointe de leur lance, des couteaux de vignerons. Si nous allons au prophète Joël, il devait d'abord de leur couteau de vignerons forger des lances et de leur charrue forger des épées. Disait cela dans Joël. Il est écrit ici dans Joël. Je suis pas du tout préparé à cela, mais c'est toujours. Mais il est toujours préférable d'aller tout de suite un peu au fond des choses. Il devrait être ici écrit au chapitre 4. Donc en français, c'est chapitre 3, verset 9 et 10. Chapitre 3, verset 9. Joël chapitre 3, verset 9 et 10. Faites savoir au peuple des nations cela. Préparez-vous à la guerre sainte, rassemblez les guerriers qualifiés, que tous les hommes de guerre marchent et avancent. De vos charrues, forgez des épées et de vos couteaux de vignerons, des pointes de lance. Ici, les choses sont dites très clairement, en fait. Et nous savons que lorsque l'on entend les ennemis d'Israël, ils parlent de guerre sainte, c'est vrai ou pas? Tout le monde arabe parle de la guerre sainte. Et pour eux, la guerre sainte signifie la défaite d'Israël, la victoire sur Israël. Et ils ne savent pas que Dieu les mène par la bride, comme on mène un cheval avec une bride, bien alors avec un mort. C'est la chose, vous savez, qu'on met dans la bouche d'un cheval. Et ils ne comprennent pas que Dieu dirige toutes ces choses de cette façon. Ils parlent d'une guerre sainte. À leur manière, ils ne savent pas encore aujourd'hui que le Saint interviendra effectivement dans cette dernière guerre. Et qu'à la fin, il s'agira effectivement encore d'une guerre sainte. Car le Saint d'Israël mettra fin à la guerre. Mais il est dit ici, d'une manière très claire, forgez, donc permettez-moi de le relire pour que nous soyons précis. Joël 3, verset 10. De vos charrues, forgez des épées et de vos couteaux de vignerons, des pointes de lance. C'est exactement l'inverse qui est dit ici dans Ésaïe 2, à savoir, au verset 4, c'était Ésaïe 2, 4. De leurs épées, ils forgeront des charrues et de la pointe de leur lance, des couteaux de vignerons. D'abord des charrues en épée et ensuite de pointe de lance en couteaux de vignerons. Donc d'abord le contraire et ensuite reforger ceci. Pourquoi? Parce qu'ensuite le combat a déjà eu lieu. Il n'est plus du tout nécessaire de transformer une épée, de la forger en charrue, ou bien de transformer une charrue en épée. Le combat, le dernier combat est terminé. Les épées peuvent donc redevenir des charrues et les pointes de lance des couteaux de vignerons. Parce que le combat est déjà derrière eux. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Ou bien il faut que cela soit dit plus précisément? Vous savez qu'en matière de doctrine, on ne peut pas se précipiter. On ne peut pas les ignorer si vite. Et il faut que l'époque à laquelle elle se rapporte soit très précise et très claire. Quand ça concerne l'enseignement, on doit aller doucement. Et nous comprenons tout très clairement ici dans le prophète Joël. Il s'agit de la bataille finale, tout comme dans Apocalypse 16 d'Armageddon ou dans de nombreux autres passages bibliques. Je voudrais encore vous lire ici, tiré de Joël 2, pour que vous sachiez que cela se rapporte effectivement au dernier temps et à la dernière. Et vous pouvez le lire vous-même dans cette parole. Je ne veux juste pas que quelqu'un ne comprenne peut-être pas tout à fait la chose. Il doit bien être écrit ici quelque part qu'une foule de guerriers se rassemblera comme il n'y en a jamais eu depuis le début, depuis le commencement. Non, cela doit se trouver ici dans le prophète Joël. Vous pouvez bien venir avec moi. C'est une étude biblique. Je ne serai pas nerveux, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est déjà là, c'est dans Joël, chapitre 2, verset 1. Du verset 1, Joël 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez avec éclat sur ma montagne sainte. Et que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel s'approche. Oui, il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Comme l'aurore, une grande et forte armée s'étend sur les montagnes, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable de toute éternité. De toute éternité. Et qu'il n'y en aura plus à l'avenir jusqu'aux années des générations les plus éloignées. Il s'agit donc ici de la dernière, de la plus grande bataille du plus petit pays du monde, du minuscule Israël. Et lorsqu'il est dit ici, comme nous l'avons déjà lu dans Joël, chapitre 3, au verset 9, « Faites savoir au peuple des nations, préparez-vous à la guerre sainte, rassemblez les guerriers qualifiés. » Et ça, je veux vous dire. Quand viendra le combat final, ils n'en verront plus ils n'en verront plus les fantassins et les recrues, mais ils en verront vraiment les hommes exercés, les spécialistes, les héros. Et ce ne sera pas si mal pour moi de voir même d'en haut que l'armée rouge sera là. Les combattants entraînés, les héros, les gens courageux, qu'ils se lèvent. Qu'ils viennent pas ceux qui n'ont aucun talent, qui se sont tous présentés jusqu'à présent, qui ont été poussés devant, qui ont été recrutés. Que viennent maintenant les experts, les vrais spécialistes. Ils doivent venir maintenant avec toute l'armure selon la juste mesure, comme il se doit. Et Dieu, alors, il mettra fin. Nous avons vu Megiddo. C'est ce qui veut dire dur. Est-ce vrai ou tal? Qu'est-ce que c'est? Ou la plaine, nous avons tous entendu, où est l'infirmière analyse, elle a pourtant tout écrit, tout ce que nous avons entendu, la signification. Bon, il est dit ici, vos charrues forgées en épée et de vos couteaux devineront en lance. Et puis remarquez ici, vallée de Josaphat, au verset 12, que les nations se lèvent et descendent dans la vallée de Josaphat, c'est la même vallée de Josaphat, car c'est là que je m'assiérai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, verset 13, maintenant, Joël 3, car la moisson est mûre, venez et foulez, car le pressoir est plein. Vous savez, savez-vous que ce territoire, je ne sais pas, frère Rousse, vous vous souvenez que c'est tout près du Carmel, tout à fait, du Carmel. On descend du mont Carmel, on est dans la vallée de Josaphat et on est dans la plaine de Megiddo. Vous vous en souvenez? C'est un peu, on peut y aller à pied. Oui, c'est juste à la suite du mont Carmel vient cette plaine dont nous parlons ici dans la Bible. Et si vous lisez le contexte plus large, il est dit ici, au verset 13, « Mettez la faucille, car la moisson est mûre. » Je peux vous prendre avec cela dans Apocalypse. Il est également dit, mettez la faucille car la moisson est mûre. Dans Apocalypse aussi. Mais comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas préparé à cela. Et je n'aurais même pas dû commencer avec ce sujet. Mais vous savez comment ça se passe. On a alors tout de suite envie de dire les choses. Et oui, nous y voilà ici. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Du verset 17. Puis un autre ange sortit du temple dans le ciel, ayant aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, ayant autorité sur le feu, et cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante ces paroles. métaphosie tranchante et coupe le fruit de la vigne de la terre, car ses raisins, sont arrivés à maturité. L'ange, au verset 19, Apocalypse 14, l'ange fit passer sa faucille sur la terre, moissonna la vigne de la terre et la versa dans la grande cuve de la colère de Dieu. Il ne s'agit plus ici de moissonner le blé qui sera emporté dans la gloire. Il s'agissait ici de moissonner la terre entière et de la jeter dans le pressoir de la colère de Dieu. On pourrait alors lire plus loin, au verset 20. Après cela, le pressoir fut foulé hors de la ville. Du sang sorti du pressoir, vous pouvez aller dans Ésaïe 63, verset 3, et dans Joël 3, verset 13. Donc, cette chose est en rapport avec le dernier combat qui aura lieu avant l'établissement du royaume, du règne de 1000 ans. Et là, l'Éternel fera justement de beaucoup de peuples, fera justice à beaucoup de peuples et jugera, maintenant que l'un a pris du terrain à l'autre, que l'un a vaincu l'autre et que l'un a dominé l'autre, il n'en sera plus ainsi. L'Éternel fera justice parmi les peuples, jugera et tous seront pleinement satisfaits du moment où l'Éternel leur aura fait justice. Mais remarquez bien, il n'est pas non plus écrit que le juge s'assiera sur son trône et que la terre et les cieux s'enfuiront. Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici dans Matthieu. Ici, il est dit que le roi est lié à la domination, au gouvernement. Verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez en héritage la royauté qui vous a été préparée dès la fondation du monde. » Oui, mais qu'est-ce que c'est ici, la royauté? La royauté est la part de domination dans le royaume, dans le millénium. C'est absolument rien d'autre qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. De toute façon, il y a encore ici un autre mystère qui nous est connu par les prédications de frère Branham. Il est écrit ici dans le dernier verset, donc Matthieu 25, 46, au verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Nous savons qu'il y a ici le mot « éon ». Et un éon est une période de temps, à savoir du début du règne de 1000 ans jusqu'à la fin du règne de 1000 ans, et ensuite vient la résurrection de tous. Et alors il est dit, la mort a rendu les morts, la mer a rendu les morts, même l'enfer a rendu les morts. Tous les hommes doivent alors ressusciter lors du jugement final et recevront alors leur lot. C'est à ce moment-là que s'accomplira ce qui est écrit dans Apocalypse 20, verset 15. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Oui, il a été jeté dans les temps de feu. Il est donc dit ici tout de suite, à la fin du verset 14 d'Apocalypse 20, ceci est la seconde mort, c'est-à-dire les temps de feu. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Ce qu'il y a avec les évangiles, et c'est ce que nous devons tout simplement comprendre aussi, c'est comme les livres prophétiques, que dans un chapitre ou dans un paragraphe, il peut être question de deux ou trois choses différentes. Je vous donne un exemple tiré de Matthieu 24. Ici, les disciples ont interrogé le Seigneur alors qu'il s'était assis avec eux sur le mont des Oliviers. Dis-nous donc, quand ces choses arriveront-elles? La deuxième partie du verset 3, Matthieu 24, la deuxième partie. Et quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Trois questions. Quand cela arrivera-t-il? Qui ne restera plus pierre sur pierre, etc. Et quand reviendras-tu? Et quand l'achèvement du temps du monde, la fin du monde. Ensuite, si vous lisez du verset 9, par exemple, dans Matthieu 24. Après cela, on amènera, du verset 9, après cela, on amènera sur vous une grande tribulation, etc. etc. Et ensuite, au verset 14, il est dit que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier à toutes les nations en témoignage, et alors viendra la fin. Cela fait donc déjà allusion à notre temps. Et si vous lisez le verset 15, il est fait allusion à l'époque d'autrefois, absolument, sans aucun doute. Voici le verset 15, regardez. Quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel se dresser dans un lieu saint, que le lecteur prenne garde. Alors que les croyants qui sont en Judée s'enfuient dans la montagne. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas encore dans la maison pour y prendre ses effets. Et que celui qui est dans les champs ne retourne pas prendre encore son manteau. Son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez seulement pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou le jour du sabbat. Vous voyez de quoi il s'agit? En tant qu'Église, nous n'avons rien à voir avec le sabbat, ni avec l'hiver, ni avec l'été, ni avec une fuite, rien non plus. Il s'agissait ici d'Israël. Et que s'est-il passé? Celui qui lit Joseph, l'un des plus grands historiens, les croyants de l'époque, lorsque le général romain Titus a commencé à encercler la ville, les croyants ont quitté Jérusalem et tous ses environs pour se réfugier dans les montagnes de Judée. Et pas un seul d'entre eux n'a regardé autour de lui et pas un seul n'a péri. Ils ont tous été préservés, tous ceux qui ont cru, parce qu'ils ont observé la parole du Seigneur. Parce qu'il est écrit à la fin du verset 15 que le lecteur prenne garde. Et c'était la parole du Seigneur. Il est écrit qu'ils devaient s'enfuir et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait au moment où la ville a été entourée 70 après Christ, donc 70 après Christ. Et ils sont partis, tous les croyants. Pas un seul vrai croyant n'a péri lorsque Jérusalem a été rasée et que le sang a coulé hors des portes. Pas un seul croyant ne figurait parmi ceux qui ont péri à ce moment-là. Et nous remarquons que cette histoire est en fait, priez ici seulement que votre fuite ne tombe pas en hiver ou le jour du sabbat, car il y aura un temps de tribulation terrible tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ça, c'est le verset 21 de Matthieu 24. Et celui qui a lu l'histoire, c'était donc vraiment horrible. Il n'en est pas resté un seul. Tout a été massacré dans la ville, tout, sous le règne du général romain Titus. Nous avons certainement tous lu cela. Mais si nous continuons à lire dans Matthieu 24, nous revenons à la fin notre temps. Si l'on dit qu'il est dans le désert, qu'il est dans les chambres, etc., ça, ne le croyez pas. Puis vient la parole. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement ou du retour du Fils de l'homme. Voyez, différentes choses dans un seul chapitre, mais elles doivent être comprises et classées de manière juste. Et ensuite, il est dit ici aussitôt, notez bien maintenant, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Je lis à dessein encore une fois le chapitre 24, verset 27, et je me tourne immédiatement vers l'autre page. Matthieu 24, verset 27. Comme l'éclair part de l'Orient, donc de l'Est, et brille jusqu'à l'Ouest, il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Car où sera le corps, les aigles s'y assembleront. Mais aussitôt après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune perdra sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Lisez cela avec le sixième sceau d'Apocalypse. Et vous verrez qu'il est à 100% en accord. Et cela a lieu après l'enlèvement. Cela tombe justement dans la période après l'enlèvement. Nous savons que les quatre premiers sceaux concernent toute la période de l'Église, de la Nouvelle Alliance, le cinquième sceau, les Juifs. Le sixième sceau, la Grande Tribulation. Apocalypse 6, verset 12. Apocalypse 6, verset 12. Je vis encore que lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain et la lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier jette ses fruits non mûrs quand un vent de tempête le secoue. L'un et l'autre, tout concorde à 100%. Il suffit de les assembler de la bonne manière dans le bon contexte. L'important, c'est que nous nous tenions correctement devant le Seigneur et qu'il puisse nous bénir, nous préparer pour le jour de son retour et que nous puissions aller avec lui lorsqu'il viendra chercher les siens. Mais une chose est sûre, tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Même la parole qui a été lue dans l'épître de Pierre. Les gens ne disent-ils pas aujourd'hui quand on leur parle ce que Pierre a prononcé alors par l'Esprit autrefois? Ne vous disent-ils pas en face? Oui, cela a déjà été dit à l'époque, autrefois, que Christ devait revenir. Depuis longtemps, cela est dit. Et alors, ils disent que tout reste comme avant. Ne prononcez-vous pas les mêmes paroles que... Est-ce que les gens ne prononcent pas les mêmes paroles que Pierre a prononcées par l'Esprit à l'époque? Absolument, ils sortent si exactement, mot pour mot de leurs lèvres. Qui d'entre vous en a déjà fait l'expérience? Parlez aux non-croyants et vous verrez qu'ils agissent effectivement de la sorte. Mais il est écrit ici, 2 Pierre 3, verset 3, mais vous devez d'abord considérer qu'à la fin des temps, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, il y aura des moqueurs pleins d'arrogance, des hommes qui marcheront selon leur propre convoitise. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Qui ne se moque pas aujourd'hui? Le monde est plein de moqueurs. Mais alors, on nous fera remarquer, et il est dit ici, mais où est donc son retour promis? Ils disent, où donc est son retour promis? Depuis que les pierres se sont endormies, tout reste tel qu'il est depuis le début de la création. 2 Pierre 3, verset 4. Ça, c'est la réponse des non-croyants, mais pas celle des croyants. Mais Pierre, conduit par l'Esprit, a déjà pu dire toutes ces choses. Paul a pu aussi les dire. Et certes, ils n'ont pas écrit seulement pour l'époque. D'autrefois, ils ont écrit pour l'Église du Seigneur jusqu'à la fin. Et nous, qui vivons maintenant à la fin des temps, pouvons voir rétrospectivement tout l'accomplissement et jusqu'à notre époque. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de prier, que nous le remercions de tout cœur pour tout ce qu'il a fait pour nous et en nous. Il nous a délivrés de la perdition, couronnés de grâce et de miséricorde. Il nous a révélé sa parole et sa volonté, qui nous donne la grâce et la puissance et la force de aussi également la mettre en pratique. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta clarté qui émane de ta parole, Seigneur. Nous sommes si heureux, Seigneur, que nous ne sommes pas incrédules face à ta parole, mais nous la croyons de tout notre cœur. Seigneur, il se peut que nous ne puissions pas tout comprendre comme il se doit. Ô Seigneur, mais Seigneur, nous le croyons, Seigneur. Tu rendras tout merveilleux, ô Dieu. À ton nom soit la gloire, la louange, la gloire et l'adoration. Mais tu n'as pas abandonné ton peuple, Seigneur. Non, tu t'es révélé à ton peuple, révélé. En ce moment même, en ces derniers jours, nous te remercions, Seigneur, pour chaque clarté que tu nous accordes par grâce. Et nous te rendons gloire à toi seul. Et te donnons. Et nous savons que tout doit s'accomplir, Seigneur. Seigneur, tout ce que tu as dit, que ce soit pour le peuple d'Israël ou pour nous, au Seigneur, tout doit s'accomplir, Seigneur. Parce que ta bouche sainte l'a dit. Que les remerciements, la gloire et l'honneur te soient apportés, Seigneur. Bénis-nous tous maintenant, Seigneur. Fais que nous soyons si ouverts devant toi. Seigneur, que nos cœurs te louent, Seigneur, et exaltent ton Saint-Nom, car tu a fait de grandes choses pour nous. Tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as délivrés. Oui, tu as fait une nouvelle alliance, Seigneur. Tu es entré toi-même dans la brèche pour nous. Qu'il t'en soit rendu grâce et gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen.